Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Sogyal Rinpoche, le livre tibétain de la vie et de la mort. Troisième partie. Chapitre 1. La vie. Nous avions vu le miroir de la mort. Voici la mort dans le monde contemporain. Lorsque j'arrivais pour la première fois en Occident, je fus choqué par le contraste qui existait entre l'attitude envers la mort que j'avais connue jusqu'alors et celle que je rencontrais maintenant. Malgré ses prouesses technologiques, la société moderne occidentale ne possède aucune compréhension réelle de ce qu'est la mort, ni de ce qui se passe pendant et après celle-ci. Je découvris que de nos jours, on apprend aux gens à nier la mort et à croire qu'elle ne représente rien de plus qu'un anéantissement et une perte. Ainsi, la majeure partie du monde vit soit dans le refus de la mort, soit dans la crainte qu'elle lui inspire. On considère même qu'il est morbide d'en parler, et bien des gens croient que le simple fait de l'évoquer risque de l'attirer sur eux. D'autres l'envisagent avec une insouciance naïve et enjouée, croyant que, pour une raison ou pour une autre, elle se passera bien et qu'ils n'ont pas de soucis à se faire. Lorsque je pense à eux, ces paroles d'un maître tibétain me reviennent en mémoire. Les gens commettent souvent l'erreur de se montrer légers au sujet de la mort et de penser « Oh, et puis, elle arrive à tout le monde ». Ce n'est pas une grande affaire, c'est naturel, tout ira bien pour moi. La théorie est plaisante, certes, jusqu'au moment où, effectivement, l'on doit mourir. La première attitude consiste à envisager la mort comme une réalité qu'il faut fuir à tout prix. La seconde à juger qu'il n'est pas nécessaire de s'en préoccuper, comme elles sont loin, toutes deux, d'une compréhension juste de son sens véritable. Toutes les grandes traditions spirituelles du monde, y compris bien sûr le christianisme, ont clairement affirmé qu'elle n'est pas une fin. Elles nous ont toutes transmis la vision d'une vie future qui imprègne notre existence, présente d'un sens sacré. Pourtant, en dépit de leurs enseignements, la société contemporaine demeure, dans une large mesure, un désert spirituel, et la majorité des gens s'imaginent qu'il n'existe pas d'autre vie que celle-ci. Sans foi réelle et authentique, en une vie après la mort, la plupart d'entre nous mènent une existence dépourvue de toute signification ultime. Je me suis rendu compte que le fait même de nier la mort est porteur de conséquences désastreuses qui s'étendent bien au-delà de l'individu. Elle affecte la planète entière. Fondamentalement persuadée qu'il n'existe pas d'autre vie que celle-ci, la société moderne n'a développé aucune vision à long terme. Rien n'empêche donc les individus de piller la planète afin de réaliser leurs objectifs immédiats et de vivre dans un égoïsme qui pourrait bien s'avérer fatal pour l'avenir. Voici ce qu'en dit l'ancien ministre brésilien de l'Environnement, responsable de la protection de la forêt tropicale, amazonienne. La société industrielle moderne est une religion fanatique. Nous saccageons, empoisonnons, détruisons tous les écosystèmes de la planète. Nous signons des reconnaissances de dettes que nos enfants ne pourront jamais payer. Nous nous conduisons comme si nous étions la dernière génération sur Terre. Sans un changement radical dans nos cœurs, nos esprits, notre perspective, la Terre finira comme Vénus. Calcinée, morte. Combien nous faudra-t-il encore d'avertissements de ce genre? La destruction de notre environnement est alimentée par la peur de la mort et par l'ignorance d'une vie après la mort. Il constitue une menace pour nos vies à tous. N'est-il donc pas extrêmement inquiétant que l'on ne nous enseigne ni ce qu'est la mort, ni comment mourir? Que l'on ne nous donne aucun espoir en ce qui existe après la mort et par conséquent aucun espoir en ce qui est réellement sous-jacent à la vie? N'est-il pas paradoxal que les jeunes reçoivent une éducation très poussée dans tous les domaines, sauf dans celui qui détient précisément la clé de l'entière signification de la vie et peut-être même de notre survie? J'ai souvent été intrigué en entendant certains maîtres bouddhistes de ma connaissance poser cette simple question à ceux qui venaient leur demander un enseignement. Croyez-vous en une vie après celle-ci? La question n'est pas de savoir s'ils y croient en tant que proposition philosophique, mais s'ils le ressentent profondément dans leur cœur. Le maître sait que ceux qui croient en une vie après celle-ci envisageront leur existence de façon foncièrement différente, éprouvant un sentiment aigu de leur responsabilité et ressentant la nécessité d'une morale personnelle. Les maîtres pressentent sans doute le danger que les gens qui ne sont pas fermement convaincus de l'existence d'une vie après celle-ci créent une société polarisée sur des résultats à court terme, sans guère se soucier des conséquences de leur action. N'est-ce pas la raison principale qui nous a amenés à créer le monde brutal dans lequel nous vivons aujourd'hui? Ce monde où l'on rencontre si peu de compassion véritable. Les pays les plus riches et les plus puissants du monde industriel me font parfois songer au royaume des dieux décrit dans les enseignements bouddhistes. Il est dit que les dieux vivent dans un faste éblouissant, se délectant de tous les plaisirs imaginables, sans accorder l'ombre d'une pensée à la dimension spirituelle de la vie. En apparence, tout se déroule pour le mieux jusqu'au moment où la mort approche et où commencent à apparaître les signes inattendus du déclin. Alors les épouses et les bien-aimés des dieux n'osent plus les approcher. Elles se contentent de leur jeter des fleurs au loin, tout en faisant quelques prières distraites, afin qu'ils renaissent dans le royaume des dieux. Aucun de leurs souvenirs de bonheur ou de bien-être ne peut les préserver de la souffrance qui les assaille. Ils ne font au contraire que la rendre plus cruelle. Leur dernière heure venue. Les dieux périssent donc ainsi, seuls et dans la détresse. Le sort des dieux me rappelle la façon dont sont traités aujourd'hui les malades, les personnes âgées et en fin de vie. Notre société vit dans l'obsession de la jeunesse, du sexe et du pouvoir, et nous fuyons ce qui évoque la vieillesse et la décrépitude. N'est-il pas terrifiant que nous abandonnions ainsi les personnes âgées lorsque leur vie active est terminée et qu'elles ne nous sont plus d'aucune utilité? N'est-il pas alarmant que nous les mettions à l'écart dans des maisons de retraite où elles meurent seules et oubliées? Ne serait-il pas temps également de reconsidérer la manière dont nous traitons parfois ceux qui sont atteints de maladies incurables comme le cancer et le sida? J'ai connu plusieurs personnes qui sont mortes du sida et j'ai souvent constaté que même leurs amis les traitaient comme des parias. L'opprobre lié à leur maladie les réduisait au désespoir et leur faisait prendre leur vie en horreur. Car elles avaient le sentiment qu'aux yeux du monde, cette vie était déjà terminée. Même lorsque c'est une personne que nous connaissons, ou l'un de nos proches qui est en train de mourir, nous nous trouvons bien souvent complètement démunis quant à la façon de l'aider. Et après sa mort, rien ne nous encourage à songer à l'avenir de la personne défunte, à la façon dont sa vie pourrait se poursuivre, ou à l'aide que nous pourrions continuer à lui apporter. Bien au contraire, toute tentative en vue d'orienter nos pensées dans ce sens risque d'être rejetée comme absurde et ridicule. Tout ceci nous montre avec une acuité douloureuse combien il est nécessaire que s'opère, aujourd'hui plus que jamais, un changement fondamental dans notre attitude envers la mort et les mourants. Wow, wow. Heureusement, les mentalités commencent à évoluer. Le mouvement des soins palliatifs, par exemple, accomplit un travail remarquable, tant au niveau des soins pratiques que du soutien affectif. Ceci, toutefois, est insuffisant. Les personnes mourantes requièrent certes de l'amour et des soins, mais elles ont besoin de quelque chose de plus profond encore. Découvrir un sens réel à la mort et à la vie. Autrement, comment pourrions-nous leur apporter un réconfort ultime? Aider les mourants, c'est donc inclure la possibilité d'un soutien spirituel. En effet, seule une connaissance spirituelle leur permettra véritablement de faire face à la mort et de la comprendre. J'ai trouvé très encourageante la façon dont ces dernières années en Occident, les pionniers tels que Elisabeth Kübler-Ross et Raymond Moody ont ouvert aux recherches le domaine de la mort et de l'accompagnement des mourants. Après avoir exploré en profondeur la façon dont nous prenions soin des personnes en fin de vie, Elisabeth Kübler-Ross a montré que la mort peut s'avérer une expérience paisible, voire transformatrice, à condition que celle-ci bénéficie d'un amour inconditionnel et d'une attitude plus éclairée. Les études scientifiques portant sur les nombreux aspects de l'expérience de proximité de la mort et qui ont fait suite au courageux travail de Raymond Moody ont offert à l'humanité la vive espérance, le ferme espoir que la vie ne s'achève pas avec la mort, qu'il existe bien une vie après la vie. Certains, malheureusement, n'ont pas réellement compris toute la portée de ces révélations à propos de la mort et de son processus, et sont allés jusqu'à envisager celle-ci sous un jour par trop attrayant. J'ai entendu parler du cas tragique de jeunes gens qui s'étaient suicidés parce qu'ils avaient cru que la mort était belle et qu'elle leur offrait le moyen d'échapper à la tristesse de leur vie. Mais que nous ayons peur de la mort et refusions de lui faire face, ou qu'au contraire nous l'apercevions sous un jour romantique, elle est dans les deux cas banalisée. Face à la mort, le désespoir ou l'euphorie ne sont que des faux fuyants. La mort n'est ni déprimante, ni séduisante. Elle est tout simplement une réalité de la vie. Comme il est triste que la plupart d'entre nous ne commencent à apprécier leur vie que lorsqu'ils sont sur le point de mourir. Je pense souvent à ces paroles du grand maître bouddhiste Padmasambhava. Ceux qui croient qu'ils ont beaucoup de temps ne se préparent qu'au moment de la mort. Ils sont alors ravagés par les regrets. Mais n'est-il pas trop tard? Pourrait-il y avoir un commentaire plus terrifiant sur le monde moderne que celui-ci? La plupart des gens meurent non préparés à la mort de la même manière qu'ils ont vécu, non préparés à la vie. Voici maintenant la dernière partie de ce premier chapitre. De la première partie du premier chapitre, après le miroir de la mort et celui-ci, la mort dans le monde contemporain. La dernière partie s'intitule Le voyage à travers la vie et la mort. Selon la sagesse du Bouddha, nous pouvons effectivement utiliser notre vie pour nous préparer à la mort. Pourtant, point n'est point besoin d'attendre la fin douloureuse d'un proche ou le choc d'une maladie incurable pour nous obliger à reconsidérer notre existence. Nous ne sommes pas non plus condamnés à partir les mains vides au moment de la mort pour affronter l'inconnu. Nous pouvons commencer ici et maintenant, à découvrir un sens à notre vie. Nous pouvons faire de chaque instant l'occasion de changer et de nous préparer de tout notre être, avec précision et l'esprit paisible, à la mort et à l'éternité. Dans l'approche bouddhiste, la vie et la mort sont perçues comme un tout. La mort est le début d'un autre chapitre de la vie. La mort est un miroir dans lequel se reflète l'entière signification de la vie. Cette vision est au cœur même des enseignements de la plus ancienne école du bouddhisme tibétain. Beaucoup d'entre vous auront sans doute entendu parler du livre des morts tibétains. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est d'expliquer et de développer le livre des morts tibétains afin de traiter non seulement de la mort, mais aussi de la vie et d'exposer en détail l'enseignement global dont le livre des morts tibétains n'est qu'une partie. Dans cet enseignement extraordinaire, la vie et la mort envisagées comme un tout sont présentées comme une série de réalités transitoires, constamment changeantes, appelées bardo. Le terme bardo est communément utilisé pour désigner l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Mais, en réalité, les bardo se produisent continuellement, aussi bien durant la vie que durant la mort. Ce sont des moments de passage où la possibilité de libération ou d'éveil se trouve considérablement accrue. Les bardo constituent des occasions exceptionnelles de libération. En effet, les enseignements nous montrent que certains moments sont beaucoup plus puissants que d'autres. Ils sont porteurs d'un potentiel bien plus élevé où chacun de nos actes a des conséquences déterminantes et d'une grande ampleur. Je comparerai le bardeau à l'instant où l'on s'avance au bord d'un précipice. À tel instant se produit, par exemple, lorsqu'un maître introduit un disciple à la nature essentielle, originelle et la plus secrète de son esprit. Toutefois, le plus puissant et le plus significatif de ces moments demeure celui de la mort. Selon la perspective du bouddhisme tibétain, nous pouvons diviser notre existence entière en quatre réalités qui sont en corrélation constante. 1. La vie. 2. Le processus de la mort et la mort elle-même. 3. La période après la mort. Et 4. La renaissance. On les appelle les quatre bardeaux. Le bardeau naturel de cette vie. Le bardeau douloureux du moment de la mort. Le bardeau lumineux de la dharmata. Et quatrième, le bardeau karmique du devenir. En raison de l'étendue et du caractère exhaustif des enseignements sur les bardeaux, le plan de ce livre a été élaboré avec soin. Vous serez guidé étape par étape à travers le voyage de la vie et de la mort, dont la vision se déploiera devant vous. Notre exploration se doit de débuter par une réflexion sans détour sur le sens de la mort et les multiples facettes de cette vérité qu'est l'impermanence. Une réflexion de ce type peut nous aider à faire un usage fécond de cette vie pendant qu'il en est encore temps, et nous donner la garantie que lorsque nous mourrons, nous n'aurons ni remords, ni l'amertume d'avoir gaspillé notre existence. Comme le disait le célèbre saint et poète du Tibet, Milarepa, ma religion est de vivre et de mourir sans regret. Une contemplation profonde du message secret que nous livre l'impermanence, à savoir ce qui est au-delà de l'impermanence et de la mort, nous amène directement au cœur des puissants enseignements de la tradition tibétaine. L'introduction à la nature essentielle de l'esprit, la réalisation de la nature de l'esprit, que nous pourrions appeler notre essence la plus secrète, cette vérité dont nous sommes tous en quête, est la clé pour comprendre la vie et la mort. Au moment de la mort, en effet, l'esprit ordinaire et ses illusions meurent, et dans la brèche ainsi ouverte se révèle la nature de notre esprit, illuminé comme le ciel. Cette nature essentielle de l'esprit constitue l'arrière-plan de l'ensemble de la vie et de la mort, de la même manière que le ciel embrasse l'univers tout entier. Les enseignements montrent clairement que si tout ce que nous connaissons de l'esprit est l'aspect qui se dissout lorsque nous mourrons, nous n'aurons aucune idée de ce qui se perpétue, aucune connaissance de cette dimension nouvelle, celle de la réalité plus profonde de la nature de l'esprit. Il est donc essentiel que chacun d'entre nous apprenne de son vivant à se familiariser avec cette nature de l'esprit. C'est à cette condition seulement que nous serons prêts lorsque se révélera spontanément et dans toute sa puissance au moment de la mort. C'est à cette condition seulement que nous pourrons la reconnaître aussi naturellement, disent les enseignements, qu'un enfant se réfugiant dans le giron de sa mère, et qu'en demeurant dans cet état, nous serons finalement libérés. Une description de la nature de l'esprit conduit naturellement à des instructions complètes sur la méditation, car seule la méditation peut nous permettre d'en renouveler la découverte, de la réaliser et de la stabiliser graduellement. une explication de la nature de l'évolution humaine, de la renaissance et du karma sera ensuite proposée, afin de vous donner la signification la plus complète possible de notre cheminement à travers la vie et la mort, et d'en indiquer le contexte. Vous aurez alors acquis une connaissance suffisante pour pénétrer avec confiance au cœur même de cet ouvrage. Un exposé complet et détaillé, puisé à des sources variées, de l'ensemble des quatre bardos, ainsi que des différentes étapes de la mort et du processus de la mort. Instructions, conseils et pratiques spirituelles. Ils sont présentés en détail pour vous permettre à la fois de vous aider vous-même et d'aider les autres à traverser les différentes étapes de la vie, du processus de la mort elle-même et de l'après-mort. En conclusion, le livre nous propose une perspective sur la manière dont les enseignements traitant des bardos peuvent nous aider à comprendre la nature la plus profonde de l'esprit humain et de l'univers. Mes étudiants me posent souvent cette question. Comment pouvons-nous véritablement savoir ce que sont ces bardos? D'où proviennent l'étonnante précision des enseignements les concernant? Et la connaissance étrangement claire qu'ils ont de chaque étape du processus de la mort elle-même et de la renaissance. La réponse peut sembler difficile à comprendre d'emblée pour de nombreux lecteurs, car l'Occident possède de nos jours une conception de l'esprit terriblement étroite. En dépit des percées majeures effectuées ces dernières années, en particulier dans les domaines des sciences psychophysiologique et de la psychologie transpersonnelle, la grande majorité des scientifiques continuent à réduire l'esprit à un ensemble de processus biologiques se produisant à l'intérieur du cerveau, ce qui va à l'encontre des témoignages rapportés depuis des milliers d'années par les mystiques et les pratiquants de toutes les religions. De quelle source un livre comme celui-ci peut-il donc tirer son autorité? La science intérieure du bouddhisme se fonde, selon les termes d'un érudit américain, sur une connaissance à la fois minutieuse et vaste de la réalité, sur une compréhension profonde de soi et de l'environnement déjà expérimenté et établi, c'est-à-dire sur l'éveil complet du Bouddha. La source des enseignements sur les bardos est l'esprit d'illumination, l'esprit de Bouddha totalement éveillé, tel qu'il a été vécu, expliqué et transmis par une lignée ininterrompue de maîtres remontant au Bouddha primordial. Leur exploration de l'esprit et les formulations consciencieuses et méticuleuses, on pourrait presque dire scientifiques, de leurs découvertes au cours des siècles, nous ont offert un panorama aussi complet que possible de la vie et de la mort. C'est cette description exhaustive que, grâce à l'inspiration de Jamyang Khyentse et de mes autres maîtres, je m'efforce humblement de transmettre ici, pour la toute première fois, à l'Occident. Le livre de la vie et de la mort est le fruit de nombreuses années de contemplation, d'enseignement, de pratique, de clarification de certaines questions avec mes propres maîtres. Il représente la quintessence des conseils du cœur de tous mes maîtres. Un nouveau livre des morts tibétains est un livre tibétain de la vie. Je souhaite qu'il soit un manuel, un guide, un ouvrage de référence et une source d'inspiration sacrée. Reprenez ce livre, relisez-le encore et encore. C'est seulement de cette façon que vous en découvrirez, selon moi, les multiples niveaux de signification. Vous vous apercevrez que plus vous en ferez usage, plus vous apprécierez en vous-même la portée de son message, et plus vous en viendrez à réaliser la profondeur de la sagesse qui vous est ainsi transmise à travers les enseignements qu'il contient. Les enseignements sur les bardeaux nous montrent avec précision ce qui se passera si nous nous préparons à la mort, et ce qui adviendra dans le cas contraire. Le choix ne saurait être plus clair. Si nous refusons d'accepter la réalité de la mort aujourd'hui, alors que nous sommes encore en vie, nous le paierons chèrement, non seulement tout au long de notre existence, mais aussi au moment de la mort et ensuite. Ce refus aura pour conséquence de gâcher cette vie et toutes celles à venir. Nous serons incapables de vivre notre existence pleinement. Nous demeurerons prisonniers, précisément, de cet aspect de nous-mêmes qui doit mourir. Cette ignorance nous privera de la base même du voyage vers l'éveil et nous retiendra sans fin dans le royaume de l'illusion, le cycle incontrôlé de la vie et de la mort. Cet océan de souffrance que nous bouddhistes appelons samsara. Toutefois, le message essentiel que nous livrent les enseignements bouddhistes est qu'il existe un espoir immense dans la vie comme dans la mort, à condition que nous nous y soyons préparés. Ces enseignements nous révèlent qu'une liberté prodigieuse et finalement sans limite est possible, qu'il nous appartient d'y travailler dès maintenant, durant notre vie, une liberté qui nous permettra de choisir notre mort et par conséquent de choisir notre naissance. Pour celui qui s'est préparé et s'est engagé dans une pratique spirituelle, la mort arrive non comme une défaite, mais comme une victoire, devenant ainsi le moment le plus glorieux de la vie, son couronnement. De cette troisième partie sur le Bardo Todol, le livre tibétain de la vie de la mort. Prochaine émission commencera sur le thème de l'impermanence. Merci et à bientôt dans un prochain épisode de la quatrième dimension.